Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Les États-Unis qui se cognent encore la tête sur le plafond de verre. Alors, ce plafond que l'on repousse à chaque fois, que les États-Unis doivent repousser, rehausser à chaque fois. Guillaume Lavoie, ben encore une fois, on parle de ce plafond de la dette que les Américains devront rehausser après moult discussions politiques.
C'est fascinant, ce dossier-là. Alors, vous savez, au Québec, il y a des choses qui reviennent, c'est la couleur de la margarine. Aux États-Unis, c'est encore plus triste, c'est le plafond de la dette. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, le plafond de la dette, puis pourquoi on s'y cogne la tête? Il y a une énorme hypocrisie dans tout ça, là. C'est-à-dire que les élus, surtout au Congrès, se donner bonne conscience, disent, bon, ben le gouvernement américain, là, vous pouvez emprunter, mais jusqu'à un niveau X. Et ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le plafond de la dette, c'est-à-dire que les États-Unis, le gouvernement américain, dans la loi qui est présentement dans les livres, dit vous pouvez emprunter jusqu'à 32 trillions de dollars. Et juste pour se donner une idée, là, parce que des chiffres comme ça, ça devient tellement énorme qu'on peut plus vraiment bien les saisir. Yasmine, juste quelques petits parallèles, là. Si on prenait des secondes, 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. Ça dure 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 32 ans. Et 1 trillion de secondes, c'est 32 000 ans. Alors, ils sont pas à veille de finir de la payer la dette. Au Canada non plus, là, là-dessus, quand on se compare, on se console pas du tout. Et le pire, c'est quand, moi, je donnais des conférences sur le système américain, Obama était président. C'était pas des lunes, là. C'est pas Mathusalem. Il y avait l'Internet dans ce temps-là. Le plafond de la dette était à 16 trillions. Wow. Aujourd'hui, il est à presque 32. Alors, il y en a qui se sont amusés avec la carte de crédit, soit dans des dépenses beaucoup plus grandes, mais aussi à chaque fois que le gouvernement envoie dans l'économie des baisses d'impôts qu'il finance avec la dette, c'est un peu ça que ça donne.
Ou qu'il y a une pandémie.
Alors, il y a eu la pandémie, mais c'est pas la part du lion là-dedans.
Ah oui.
Mais fondamentalement, le plus grave, c'est l'hypocrisie de la chose, parce que c'est pas comme si le Congrès avait dit, ben là, vous avez emprunté, vous ne l'avez pas dit, là. Toutes les dépenses qui sont allées gruger dans la marge de manœuvre jusqu'au plafond de la dette ont toutes été approuvées par les républicains et les démocrates. Alors, en gros, on a un Congrès qui approuve toutes les dépenses, puis après ça, vient jouer aux vierges offensées en disant, c'est donc terrible, le gouvernement dépense comme si c'était, comme on dit en anglais, là, un marin en permission qui a trop bu, et là, pour remettre un peu de sérieux dans l'équation, ben je vais refuser d'augmenter le plafond de la dette, sauf que ce sont des dépenses déjà engagées. Un peu comme si vous signez votre hypothèque, c'est trop gros au goût de votre conjoint ou de votre conjointe, elle dit, ben écoute, moi là, je renouvelle pas l'hypothèque, arrange-toi avec tes troubles. Ben là, un instant, là, ces dépenses-là ont déjà été associées. Et la raison pour habituellement, voici comment ça marche toujours, Yasmine. C'est, il y a un meeting là qui finit à la 11e heure, à minuit moins 3, puis là, on finit par tout voter, parce qu'on peut pas se permettre, parce que si je peux pas emprunter plus pour faire face aux dépenses qui viennent, là, par exemple, payer le prochain paiement d'hypothèque, rembourser les créditeurs à l'étranger, ben, ça voudrait dire que les États-Unis seraient en défaut de paiement. C'est pas génial, ça, dans la réputation internationale. Et quand le géant de l'économie mondiale est plus capable de payer ses billes, ça tend à créer un petit peu d'inquiétude sur les marchés. Là.
Pour tout le monde.
Alors, normalement, plus personne croit que c'est une vraie crise. Sauf que là, Kevin McCarthy, le patron des Républicains à la Chambre, a fait un pacte avec le diable pour se faire élire speaker. Et les radicaux républicains ont dit, nous, si tu veux qu'on remonte le plafond de la dette, montre-moi ton plan de réduction de dépenses. Mais là, vous allez couper dans quoi, là? Alors, Biden, il dit, moi, je joue pas dans ce film-là parce qu'on n'en sortira jamais. Alors là, on a une vraie tragédie à l'américaine, là, un genre de un film spaghetti, là. On se fait face, et là, qui va flancher en premier des deux? Ça va être intéressant, mais c'est un test. Pas tant pour Biden, c'est un test pour McCarthy. Si t'es le patron d'un groupe qui te suit pas, t'es juste un gars qui prend de marche. Fait que c'est-tu lui le patron des républicains ou pas?
Excellent.
Et c'est ça qu'on va voir dans le film du plafond de la dette, Yasmine.
Revenons au dossier ukrainien et on voit que l'Ukraine, évidemment, est toujours en train de réclamer plus d'armes, des armes plus sophistiquées, des armes plus modernes. Alors, on passait des chars, maintenant on veut des avions pour pouvoir se défendre dans les airs. Et là, Moscou commence à dire que les alliés de l'OTAN, les Américains, les Britanniques, ben, ils font une guerre par procuration à la Russie. À quoi va mener ça va mener ce conflit, puis le fait que l'on équipe à chaque fois un peu plus l'Ukraine, quand est-ce que ça va s'arrêter?
Ben, d'abord, cette guerre-là, présentement, c'est l'inverse thermique de la cigale et de la fourmi. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire de Jean de La Fontaine? Alors, c'est l'été, c'est le fun. La cigale arrête pas de chanter. Pendant ce temps-là, la fourmi, elle travaille, elle ramasse des provisions, elle se prépare pour l'hiver. Puis le rendu à l'hiver, la cigale dit, ben, pourrais-tu m'aider? Puis la fourmi lui dit, ben, chantez maintenant. Arrange-toi que t'es trouble. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pendant l'hiver, les choses sont calmes. Il pleut des missiles, mais on n'est pas du tout dans les niveaux de combat qu'on verrait normalement en d'autres périodes de l'année. On le sait, les Russes se préparent. Ils mobilisent des troupes, des armes. Alors, les Ukrainiens doivent faire la même chose, là. Il faut qu'ils renchérissent. Et ça va être beaucoup plus dur. Il y a quelque chose d'infiniment dans la comptabilité morbide. Il y a quelque chose qui est au désavantage de l'Ukraine. Si, par exemple, les Russes perdent 10 000 soldats, ben, il y a pas mal plus de Russes sur la planète mobilisables pour aller se battre aux ordres de Vladimir Poutine qu'il y a d'Ukrainiens qui existent sur la planète pour aller se battre aux ordres du gouvernement ukrainien. L'Ukraine est un pays plus petit que la Russie, moins nombreux que la Russie. Alors, à mort égale, c'est comme si le pourcentage de pertes chez les Ukrainiens était plus grand. Puis, il y a un pourcentage, il y a un déséquilibre de qualité. Vladimir Poutine, il mobilise, c'est-à-dire il oblige, il vide les prisons et il embauche des mercenaires pour aller se battre en Ukraine. C'est pas la même chose qu'une armée professionnelle, par exemple, ce que vous avez un peu plus en Ukraine. Donc, les soldats ukrainiens sont mieux entraînés, mieux plus professionnels. Alors, si deux soldats de chaque côté meurent, la perte en qualité, en technique, en entraînement, elle est plus grande du côté ukrainien. Et ça, c'est un peu troublant pour la suite. Alors, c'est le temps là de faire la fourmi et de travailler encore plus fort pour se préparer pour l'hiver qui sera l'été, c'est-à-dire le conflit qui va avoir un nouveau niveau de violence.
Mais Guillaume, n'y a-t-il pas une menace de globalisation du conflit et que l'on se retrouve en guerre? À quel moment ce point de bascule, on va l'atteindre, où cette guerre par procuration va devenir une guerre globale?
Moi, je pense qu'on y est déjà. C'est une guerre globale, mais avec un terrain de jeu local, ou un champ de bataille local. Et tout le monde sait que s'il dépasse des limites du terrain de jeu, personne n'est sûr de ce que ça va donner, ou le niveau de destruction serait trop grand. Il n'y a pas une once de tolérance du côté chinois, par exemple.
Non.
C'est un peu le géant qui dort dans l'histoire pour que Vladimir Poutine décide d'attaquer un territoire de l'OTAN. Le territoire de l'OTAN, ce serait aussi une réplique directe et extraordinairement lourde. Vladimir Poutine peut peut-être se faire croire qu'il peut gagner en Ukraine, mais il peut pas se faire croire qu'il pourrait véritablement tester l'OTAN. Alors, des deux côtés, on se met d'accord que les conséquences et les implications de ce conflit-là sont clairement mondiaux, globaux, mais que le terrain de jeu ou le champ de bataille, lui, doit rester dans les frontières de l'Ukraine et un peu du côté russe, là, près de la frontière où il y a des bases. Et les deux ou tous les camps ont intérêt à ce que ce ne sorte pas véritablement de ce cadre-là. Mais ce qui est fascinant là-dedans, Yasmine, c'est combien L'histoire, ça se répète, là, des fois, tristement.
Oui.
Si vous lisez la rhétorique russe de la Deuxième Guerre mondiale, je pourrais prendre ces phrases-là et les copier-coller dans la rhétorique de Vladimir Poutine. Parce que une des choses qui avait terrorisé les Russes, c'est l'invasion allemande qui n'était pas supposée arriver. Alors, on comprend peut-être les Allemands qui ont un petit problème d'histoire ici, là. Des chars allemands russes sur le des chars allemands sur le territoire russe ou qui tuent des soldats russes, ça met les Allemands un peu mal à l'aise, mais ça vient réactiver des souvenirs profonds chez les Russes. Et Vladimir Poutine s'en sert. Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'en va à Stalingrad, qui s'appelle plus comme ça, mais qui était le point tournant sur le front de l'Est pour la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un siège de 200 jours où à la fin, les Russes ont gagné. Vladimir Poutine essaie vraiment d'inscrire cette bataille-là contre ce qu'il appelle les néo-nazis en disant « On a été attaqué la dernière fois, on a résisté malgré tout et on a fini par gagner, que chaque camarade tue son Allemand. » Là, c'est que chaque camarade tue son néo-nazi ukrainien, dont le chef est de descendance juive, ce qui fait aucun sens. Mais une bonne propagande est souvent déconnectée des faits à plusieurs moments.
Sinon, parlons de vieillissement de la population, Guillaume, et on a vu ce dossier dans le Journal de Montréal qui était très intéressant sur le vieillissement du Japon et les comparatifs que l'on peut faire avec le Québec et l'avenir de notre société d'un point de vue démographique. Ça ne regarde pas bien.
Non, et on dit souvent, il y a trois choses qui comptent dans la vie, le nombre et le nombre. La démographie. Et tu sais, moi, je pense, Yasmine, qu'on devrait avoir un démographe en chef, comme un officier du Parlement, parce que la démographie, ça mange tous les autres enjeux au petit-déjeuner. C'est la chose la plus déterminante pour tout le reste. Alors, mettons ça de côté. Le Québec, c'est la province qui vieillit le plus vite. Et c'est pas des bonnes nouvelles, ça, pour un budget dans un système de santé publique, parce que sur 100 $ de santé que vous allez consommer dans votre vie ou que vous allez coûter dans votre vie, vous allez en consommer ou en coûter 95 $ dans les 5 dernières années de votre vie. Alors, par exemple, moi qui ai eu l'ablation de l'appendice, qui avait eu une jambe cassée ou autre, c'est des peanuts, ça, dans ce que moi, je vais coûter dans ma vie pour le système de santé. Le gros des dépenses, c'est à la fin de notre vie. Alors, les boomers les plus âgés ont 75 ans, ça a à peine commencé, là. Alors maintenant, remettons ça dans le débat sur les transferts fédéraux en santé, qui sont là normalement pour aider les provinces à offrir des services égaux. À chaque fois que le fédéral refait son calcul, il donne un peu moins d'argent. Mais là, l'enjeu, c'est pas la grosseur du chèque, c'est comment le chèque. Et là, là-dessus, je pense que le Québec devrait réaligner sa stratégie, là. Parce que si c'est encore le calcul de « il faut être égaux envers tous les Canadiens », donc on donnera de l'argent en fonction de votre population, hein, ce qu'on appelle du financement par capita. Si on fait ça, on oublie que tous les Canadiens sont pas égaux entre eux face aux coûts de santé. Ça dépend ils ont quel âge. Si vous avez une population jeune, ça va être vraiment payant de se faire financer par capita parce qu'il coûte presque rien. Donc, vous allez pouvoir surpayer vos médecins, vos infirmières, etc. Si vous avez une population âgée et vieillissante rapidement comme le Québec et que vous vous faites financer par capita, c'est le début d'un déséquilibre extraordinaire dans les transferts fédéraux au désavantage du Québec. Alors, si on voulait véritablement avoir une politique nationale, il faut se dire, on va financer les dépenses de santé en fonction des coûts. Et les coûts, le plus important dans l'équation, c'est quel est l'âge moyen de vos patients. Alors, si vous avez une population très jeune, ça vous coûte pas très cher maintenant. Si vous avez une population vieillissante, vous êtes dans le gros trouble. Alors, moi, je veux pas voir le gouvernement du Québec se battre pour la grosseur du chèque. Je veux qu'on se batte pour une méthode de financement qui sera pas à notre désavantage aujourd'hui, mais surtout pour les prochains 25 ans.
Guillaume Lavoie, merci beaucoup.
Au plaisir.